Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Nathalie est la maman de deux garçons jumeaux. Et pour en arriver là, elle a traversé un sacré parcours. Souhaitant avoir un bébé dès ses 20 ans, le sujet est abordé au sein de son couple quelques années plus tard. Mais le couple se sépare au même moment et Nathalie ressort abîmée de cette relation. Elle a alors envie de vivre sa vie de célibataire et de jeune femme pleinement. Puis l'approche de la trentaine, des cycles irréguliers et un pressentiment qui lui dit qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Mais elle est jeune, donc d'après les médecins, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nouveau couple, un désir d'enfant toujours présent, un diagnostic médical d'ovaire polykystique et un début de parcours de PMA qui mènera le couple à la séparation. Retour à la case départ quand un ancien petit ami propose à Nathalie de l'aider à concrétiser son rêve de maternité en devenant le géniteur de son enfant. Marché conclu, mais après des mois de tentatives, rien. Le projet tombe à l'eau et Nathalie se lance alors dans un parcours en solo. Dans cet épisode, Nathalie nous raconte tout ce chemin pour devenir maman, ses doutes, ses espoirs et ses déceptions, jusqu'à la rencontre de ses deux bébés. Un joli épisode sur le parcours de PMA à l'étranger et la course contre l'horloge biologique. Bonne écoute. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Mais c'est avec plaisir, ça fait un moment qu'on en parle, donc on y arrive enfin.
C'est clair, 2 ans je crois. Alors toi tu es la maman de deux garçons, deux jumeaux.
C'est ça, des petits garçons, 5 ans maintenant.
Alors on va revenir sur tout ton parcours parce que tu as un parcours de maman solo. Tu as décidé de faire tes enfants toute seule. Donc je voulais déjà savoir comment tu voyais toi la maternité avant de devenir mère. Est-ce que c'était un sujet auquel tu pensais depuis très longtemps, depuis toute petite? Comment c'est venu à toi?
Alors pour être très sincère, je pense que j'ai eu envie d'avoir des enfants très jeunes. Je ne sais pas expliquer pourquoi, je ne saurais pas, parce que dans la famille on a plutôt eu des enfants tard. Ma mère nous a eu à 31 et 34 ans avec ma sœur, donc plutôt sur le tard. Ma grand-mère elle-même a eu sa fille et donc ma mère à 41 ans, donc c'était pas du tout dans les gènes de la famille de faire des enfants tôt. Et moi dès la vingtaine en fait j'ai eu envie d'avoir un bébé. En sachant que j'ai été en couple pendant 7 ans de 18 à 24 ans avec 18 à 25 ans avec un homme avec qui évidemment on se projette un peu plus puisque j'avais terminé mes études, qu'on commençait à emménager ensemble, à travailler et donc à parler de bébé autour de 24 à 25 ans. Et en fait, l'idée me trottait dans la tête depuis déjà un petit bout de temps. Alors la relation était absolument pas saine, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et dont j'ai beaucoup souffert de cette relation, mais malgré tout voilà, j'avais cette petite musique qui commençait dans ma tête en me disant tiens, je me verrais bien avec un bébé pour pouvoir en profiter. Alors j'en voulais 3 dans l'absolu, ça a toujours été mon grand délire de vouloir 3 enfants. Et je m'imaginais depuis très longtemps, mais encore une fois, ça doit faire 15 ans que je me vois annoncer à ma mère que j'ai 2 bonnes nouvelles à lui annoncer. La première, c'est que je suis enceinte, et la deuxième, c'est que ce sont des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai peut-être une petite idée, c'est que mon grand-père lui-même a un frère jumeau. Donc peut-être que c'est un truc qui a cheminé dans l'esprit de la famille depuis plusieurs années. Mais le fait est que voilà, j'ai eu envie d'avoir un bébé assez jeune, en sachant que c'était pas forcément avec cet homme-là qu'il fallait faire cet enfant. D'ailleurs, on s'est séparés quand on a commencé à en parler, parce que moi, je me suis bien rendu compte que faire un bébé, c'était pas juste s'envoyer en l'air et éduquer à deux un enfant avec pas les mêmes principes, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes envies non plus, pas les mêmes projets. Et ça a un peu précipité, je pense, notre rupture qui aurait dû être bien plus précoce. Mais le fait est que voilà, cette envie de bébé, ce besoin de maternité a poussé cette première relation vers la fin, mais que l'envie avait fait son chemin et qu'elle était déjà un petit peu installée. Donc l'envie d'un enfant, elle remonte à quelques années. On va pas dire quel âge j'ai, mais ça fait quelques années. J'étais assez jeune, effectivement.
Et alors, tu sors de cette relation un petit peu abîmée, j'imagine.
C'est ça, complètement. Un peu beaucoup même. Je pense qu'il y en a encore des séquelles aujourd'hui. Et pourtant, avec cette envie toujours d'avoir un bébé, et en même temps de me dire, bon, j'ai 25 ans, à 25 ans, on s'éclate, quoi. Ce que j'ai pas fait dès 18 à 25, je vais le faire maintenant. Donc, je vais sortir, je vais aller à des concerts, je vais aller en boîte, je vais rencontrer des mecs ou pas et voir mes copines. Donc, l'idée d'un bébé, elle est mise sous le tapis, et puis on en reparlera plus tard.
Et donc, après, est-ce que tu as fait d'autres rencontres?
Ouais, alors assez. En fait, je crois que je suis pas vraiment faite pour des histoires d'un soir. C'était un peu le vœu pieux de dire on s'envoie en l'air, on se marre et puis on verra demain. En fait, je crois que je suis pas faite pour ça. J'y arrive pas. Et donc j'ai eu quelques histoires qui ont duré plus ou moins longtemps. Et à partir de 28 ans, la trentaine approchant sans doute, je me suis rendu compte déjà que j'avais des cycles qui étaient pas du tout réguliers, que c'était franchement le bazar, que dès que j'arrêtais la pilule, c'était n'importe quoi, donc ça commençait un petit peu à m'inquiéter. Et puis en fait, l'envie de bébé quand même, qui avait déjà un peu maturé, qui avait déjà 3 ans, que j'avais mis de côté, etc., et ben elle refaisait surface, parce que la trentaine approche, parce que ben les copines autour, elles commencent à avoir une vie de couple, elles achètent des maisons, des voitures, elles font des bébés, et puis moi j'étais toujours seule ou avec des relations qui duraient 6 mois, mais sans construire quelque chose. Et en fait, je pense que ce truc que j'avais un peu enfoui parce que je m'étais dit qu'il fallait, que c'était pas le moment et que n'importe quoi, fallait bosser d'abord et on verra après, il refaisait doucement surface avec cette peur aussi, cette appréhension de me dire mais merde, si je peux pas tomber enceinte, on fait quoi là, très concrètement? Et j'ai senti à 28 ans cette menace de si je peux pas avoir de bébé. Et déjà à cette époque-là, j'avais pris connaissance des conditions pour adopter un enfant, parce que c'était quelque chose à laquelle j'avais pensé depuis longtemps, en me disant bah il y a plein d'enfants qui après tout ont pas de parents, qui sont malheureux et qui mériteraient d'avoir une famille adoptive, donc pourquoi pas, même si moi je peux en avoir. Et puis après, le truc a un peu avancé en me disant après tout peut-être qu'il y a des enfants malheureux, mais peut-être que moi aussi je serais malheureuse parce que je pourrais pas faire mon bébé à moi. Voilà.
Et alors, t'as fait des tests, du coup, t'es allée consulter
Alors, oui, j'ai consulté. Alors déjà, j'ai arrêté la pilule pour essayer de voir vraiment ce que ça faisait. J'étais pas en couple à cette époque-là, donc c'était plutôt pratique. Le fait est que ça merdouillait très clairement. La gynéco à l'époque était pas très inquiète, j'avais pas 30 ans, pas de quoi s'énerver, donc elle m'a pas fait faire de test, puisqu'elle a refusé en fait. Elle m'a pas non plus changé ma pilule en me disant non, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer de la prendre, etc. Et puis du coup, elle m'avait fait une écho en me disant non, ouais, il y a peut-être un peu beaucoup de follicules, mais enfin, il y a rien d'inquiétant. Vous énervez pas. De toute façon, vous avez pas de mari. Vous voulez pas faire un bébé maintenant, donc on verra ça le moment venu. Bon, le fait est que j'ai rencontré quelqu'un peu de temps après, donc j'ai repris la pilule parce que c'était plus simple, etc. Et puis pareil, je me disais, je vais pas faire un bébé alors qu'on vient de se rencontrer. Mais ça commençait à devenir difficile de se dire, il y a quand même. Enfin, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'avais l'impression que même si on me disait quand on arrêtait la pilule, les cycles mettaient du temps à se remettre, que j'avais l'impression, depuis un petit bout de temps, je commençais à me dire, il y a quelque chose qui va pas. Parce que déjà, à 23, 24 ans, j'avais arrêté la pilule et déjà, c'était le bazar. Donc, je me suis dit, si à 23, 24 ans, c'est le bazar, bah, forcément, ça risque de s'accentuer. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. Sans expliquer pourquoi, sans mettre des mots forcément dessus, mais que quelque chose clochait. Et comme j'ai rencontré quelqu'un, j'ai repris la pilule. Donc, voilà, encore une fois, l'idée de bébé, on la remet à plus tard, quoi. On va pas faire un bébé alors qu'on vient de se rencontrer. Mais l'envie était de plus en plus prégnante et la peur s'installait très clairement.
Et t'es resté combien de temps avec cet homme-là ?
Alors, on est resté un an ensemble. Et puis j'ai commencé à parler de bébé ou au moins d'arrêter la pilule pour voir ce que ça donnait au bout de 9 mois, on va dire. Je me disais que 9 mois c'est un signe et que peut-être que ça valait le coup. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, lui était pas, en fait, c'est moi qui ai un peu poussé les choses très clairement. Je pense que lui était rassuré par le fait que je lui ai dit que ça allait pas marcher comme ça, que voilà. Mais on était quand même, on habitait ensemble, on était bien, enfin tout allait plutôt bien. On avait 30 ans, voilà. Non. Sur le papier, c'était un peu l'histoire comme on la lit dans les bouquins. Ils se rencontrent, tout va bien, ils partent en voyage, ils s'installent, ils font un bébé, tout roule quoi. Et en fait, tout roule pas du tout parce que lui, il était pas assez mature ou moi peut-être trop pressée, je sais pas, un mélange des deux je pense. Moi j'avais très envie d'avoir ce bébé, lui il était pas prêt du tout. Peut-être que c'était pas nous deux non plus, peut-être qu'on a voulu justement parce que c'était bien écrit sur le papier, se dire que ça pouvait marcher dans la vraie vie, il y avait quand même des choses qui nous opposaient et notamment cette envie là qui moi me bouffait de jour en jour et qui s'est vraiment accentuée quand j'ai arrêté la pilule et quand je me suis rendu compte que ça allait pas du tout quoi. Je savais pas si ça allait pas mais en tout cas que j'avais pas de règles, que j'avais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Et là, du coup, j'ai pris rendez-vous avec une gynéco, en sachant qu'à Paris, les consultes qui coûtent pas 100 euros et qu'on peut avoir après 15 heures, c'est pas si fréquent que ça. Et j'ai eu la chance inespérée, parce que ça a joué sur tout le reste de mon parcours, de rencontrer une gynéco adorable qui m'a donné un rendez-vous à 20 heures et qui prenait, je sais plus, 40 euros la consulte, quoi. Et elle, en fait, alors peut-être que c'était parce que j'avais 30 ans, peut-être que c'est parce que je lui ai dit qu'on était en couple et qu'on pensait à faire un bébé, elle a fait des analyses plus poussées. Donc on a fait tout un tas d'examens et elle m'a dit oui concrètement il y a un problème, c'est pas dramatique. Quand je pense aux femmes voilà qui font de l'endométriose et tout, moi je me dis qu'à côté de ça c'est rien. Sauf que le rien, finalement, n'a pas été si rien que ça. Et en fait, elle m'expliquait que j'avais des ovaires polykystiques et que, pour la faire courte, c'est une femme qui a une ovulation normale, elle a un ovule ou deux à chaque fois, un ovaire qui grossit, qui mature et qui peut donc être fertile. Sauf que moi, j'en avais pas un ou deux, mais j'en avais 15 ou 20 et que du coup, il n'y en a aucun qui descendait et qui pouvait être fécondée. D'accord. Et que c'est pour ça que j'avais pas mes règles et que c'est pour ça que je tombais pas enceinte et que en gros pour endiguer un peu le truc, il faudrait passer par des médicaments. Au début, c'était juste ça.
Voilà. Des médicaments qui te permettent quoi en fait
d'admettre qui permettent de faire le tri en fait et de pas avoir autant de d'ovaires et d'en garder que 3 max pour qu'il y en ait un seul qui soit fécondé. Alors du coup tout ça a fait que mon histoire s'est cassée la gueule parce que ça devenait trop compliqué je pense. Alors je le remets pas en cause lui hein, c'est juste que je comprends bien que moi j'étais un peu anéantie, je me suis dit voilà, je me sentais plus femme en fait. Je me disais je peux pas devenir maman ou au moins c'est compliqué, peut-être que c'est un signe pour que je devienne pas mère tout court, peut-être que si ça marche pas voilà, c'est que je suis pas faite pour ça.
Parce que la gynécologue elle t'avait dit quoi exactement sur ta...
Elle m'avait dit ça va pas, en gros vous pourrez pas tomber enceinte en claquant des doigts et en faisant l'amour comme tout le monde quoi. ça marchera pas. Et alors, ce qui m'avait un peu rassurée, c'est qu'elle m'avait dit, en revanche, peut-être qu'à 40 ans, ça sera beaucoup plus simple, parce qu'en fait, le truc rigolo des ovaires polykystiques, c'est que quand on est jeune, on en a beaucoup, et que, comme toutes les femmes, quand on vieillit, on en a moins. Mais que du coup, les femmes qui ont des ovaires normaux, elles n'en ont plus du tout. Alors que moi, ça se diminuait et que du coup, bah, potentiellement, il n'y en aurait plus qu'un ou deux à la fin et ça pourrait être plus simple plus tard. Mais enfin, tout ça pour dire qu'elle m'avait quand même, avec beaucoup de douceur, prévenue qu'il fallait pas trop se leurrer et que, en gros, il faudrait passer par la case PMA. Pas forcément par une FIV, pas forcément par des trucs hyper lourds et tout, mais que ce serait presque un miracle que je tombe enceinte naturellement. D'accord. Voilà. Donc, mon copain de l'époque, il s'en foutait, je pense qu'il se rendait pas compte de ce que ça impliquait. Je pense que ça l'intéressait pas des masses non plus et que comme il voulait pas de bébé maintenant, il s'est dit, bon, au moins, c'est un problème en moins. Sauf que moi, le voyant se détacher complètement de l'idée et remettre ça à plus tard, et moi, un peu abasourdi quand même et sonné par le truc, je me suis dit bon ben, enfin si lui il en a pas envie et si en plus c'est compliqué, c'est sans doute pas la bonne personne avec qui faire ce projet, avec qui le tenir. J'y arriverai pas toute seule et puis ça a pas de sens de le faire toute seule. Donc on s'est séparés pour ça et pour d'autres choses. Hein. Résumer ça à ça, mais c'est vrai que ça a beaucoup joué. Et ça avait beaucoup joué aussi dans les relations précédentes parce que je pense que je cherchais plus un père qu'un mec en fait. Donc ça a joué aussi dans les relations d'après. Et une en particulier où j'ai été avec quelqu'un, je pense, par le seul intérêt, c'est moi je vais dire ça, mais par la seule envie qu'il ait d'être père. Lui, c'était ce qui le motivait aussi. Sinon, c'était quelqu'un qui me correspondait, mais absolument pas, ni physiquement, ni intellectuellement. Mais le fait qu'il me dise, moi j'ai envie d'un bébé, qu'on ait à peu près les mêmes envies d'éducation, les mêmes valeurs, etc. Je me suis dit, bah voilà, peut-être que je fais des mauvais choix depuis 20 ans à chercher des mecs sympas, beaux, qui sont fun et qui veulent pas forcément la même vie que moi. Et que lui, en fait, quand on lui parle d'une famille, ça le fait kiffer, quoi. Et je me suis dit, mais attends, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque depuis tout ce temps. Et que lui parler de famille, ça le fait pas fuir. Après tout, il me plaît pas tant que ça physiquement, mais c'est pas ça qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Enfin bon, voilà, le truc un peu. J'ai changé de vision des choses, mais en bien, je pense. Je me suis dit vraiment, il faut pas s'attarder que au physique, que à l'image qu'on a, que ce mec-là, il est peut-être pas exactement comme je l'imaginais, mais lui, la PMA, ça le fait pas flipper. Avoir des bébés, ça lui fait envie, et c'est peut-être ça qu'il me faut, quoi. Voilà, donc une fois encore, on est resté ensemble quelques temps, j'ai de nouveau arrêté la pilule, et de nouveau, je suis pas tombée enceinte. Et du coup, on a amorcé le processus de PMA, mais alors c'est toujours moi qui suis partie, qui ai quitté les hommes avec qui j'étais, et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le bon. Ça allait pas, quoi. Je me suis rendu compte assez vite que j'avais envie de ce bébé, mais à la folie, mais que ça justifiait pas d'être avec un mec que j'aimais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'aimais pas et que ce qui me faisait rêver, c'était le bébé, c'était pas lui. Mmh. Voilà. Et le fait d'avoir un bébé ne justifiait pas de rester avec quelqu'un pour qui j'avais pas de sentiments.
Donc du coup, là, t'as quel âge? Tu es de nouveau célibataire?
Alors là, je suis de nouveau célibataire. J'ai 32 ans. Mmh. Et alors là, refait surface dans ma vie, mon grand amour, un homme dont j'ai été amoureuse folle, vraiment. Enfin, j'ai eu deux grands amours dans ma vie, celui-ci et puis mon premier avec qui je suis restée 7 ans. Et celui-ci redébarque un soir en me demandant des nouvelles, en me demandant voilà, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va. En gros, ça allait pas très bien puisque j'étais toujours en coloc avec mon ex, que c'était la misère au quotidien, que j'avais toujours cette envie de bébé et qu'en plus, je savais que je pouvais pas avoir un bébé comme ça en claquant des doigts. Et j'avais un peu cheminé en me disant, tiens, quand même, 32 ans, ça pique un peu là. Si en plus, je mets 3 ans à avoir un bébé, mais je vais être maman à 40 ans, je pourrais en avoir qu'un. Il va falloir réfléchir à des solutions autre que trouver un mec que j'aime, qu'on se rencontre, qu'on fait un bébé. Enfin, c'est voilà, ça me paraissait compliqué, long. Et puis du coup, j'avais commencé à réfléchir à l'étranger. Et on en discute tous les deux parce qu'on a toujours discuté de tout, de rien, assez simplement, assez facilement. Et comme il m'avait rendue très malheureuse avant, je savais absolument qu'il fallait pas que je retombe amoureuse de lui. Mais en même temps, ça me faisait du bien de discuter avec lui. Et il m'a toujours donné confiance en moi, ce qui est pas une de mes qualités principales. Et puis il m'écoutait, il me conseillait, il me voilà. Et au fil de nos échanges nocturnes, toujours par messagerie, hein, et quand je lui ai parlé de l'étranger, il m'a dit mais moi je te le fais, ce bébé. Et là, j'ai quoi ? What ? Et en fait, il me dit bah oui, je sais que ça fait longtemps que t'as envie d'avoir un bébé. Je suis sûre que tu serais une très bonne maman. Moi, je suis prêt à faire ce sacrifice-là. Je te fais ce bébé, mais par contre, j'en entends pas parler. Donc, je suis juste le géniteur. Je le reconnais pas. On n'est pas en couple. Et je te le fais, ce bébé. Et alors là, autant te dire que j'ai assez peu dormi les nuits suivantes et j'ai un peu mis tout dans la balance. D'un côté, j'avais l'étranger, un bébé je savais pas encore si je connaîtrais le géniteur ou pas, mais en gros un bébé à l'étranger avec une équipe médicale qui assurerait le truc et tout. Et puis de l'autre côté, ce mec que je trouvais sublime, que j'adorais, que je savais intelligent, que j'avais aimé en plus, dont j'étais plus amoureuse, donc je savais que j'allais pas ressouffrir avec lui, qui me disait « je te fais un bébé, je suis là à dispo ». Enfin voilà, c'était compliqué. Et puis il y avait une histoire d'argent aussi, aller à l'étranger ça coûte de l'argent, c'est quand même pas neutre parce que c'est illégal. Et tout ça mis en balance, je me suis dit après tout, pourquoi pas quoi ? Pourquoi est-ce que c'est pas lui qui me ferait ce bébé ? J'ai ma gynéco qui est partante, elle sait pas que je suis séparée. Après tout, on peut être un couple tous les deux. Et puis je saurais qui est le père. Ça me paraissait presque plus naturel que d'aller à l'étranger avec une équipe médicale. Ouais. Et donc j'ai laissé le temps passer, j'ai réfléchi, on en a reparlé. Je lui ai dit mais quand même, t'es sûre, c'est pas n'importe quoi de faire un bébé à une nana comme ça. Il me dit alors déjà t'es pas une nana, on se connaît, on s'aime beaucoup, on a du respect l'un pour l'autre. Et puis si je le fais, c'est pas pour devenir son père, c'est pour t'offrir la possibilité d'être mère. Enfin, j'ai mis quand même du temps à accuser le coup, à réfléchir. J'en ai pas trop parlé autour de moi parce que je me disais que de toute façon il fallait que je prenne moi-même la décision. Et puis en fait, après quelques temps, je me suis dit, bah ouais, en fait, allons-y. On remet la PMA à l'étranger pour plus tard, et puis on essaye. Et puis c'est ce qu'on a fait. Alors du coup, c'était un peu le branle-bas de combat parce que il fallait prévenir la gynéco, il fallait commencer à réfléchir aux médicaments dans un premier temps, aux piqûres dans un deuxième temps. Il fallait qu'on se retrouve tous les deux aussi parce qu'on s'était pas vus, lui et moi, depuis plusieurs années et on s'était parlé que par message interposé. Et en fait, du coup, tout s'est fait vachement naturellement. On n'était pas un couple, on était des sex friends, vraiment. Et c'était chouette. C'était chouette parce qu'il n'y avait pas de pression, parce qu'encore une fois, on s'entendait bien, parce qu'on n'était pas amoureux. Mais parce que c'était doux, c'était fort, c'était avec cette idée, on fait l'amour mais pour faire un bébé. Donc c'était une espèce de parenthèse enchantée au début. Je précise au début parce qu'après c'était plus compliqué en voyant que ça marchait pas et que du coup c'était beaucoup moins idyllique. Mais au début c'était le kiff quoi. On se retrouvait autour d'un verre de vin, on passait la soirée ensemble. C'était parfait. Moi, j'avais plus de sentiments pour lui. On était bien, on discutait, on se racontait l'un à l'autre. On avait personne dans nos vies chacun, donc il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de tu me rappelles demain, sinon je vais faire une déprime. Personne n'attendait rien. C'était chouette. Voilà, c'était chouette. C'était une belle parenthèse.
Et donc, à quel moment ça a commencé un petit peu à s'effriter, cette parenthèse enchantée ?
Alors c'est pas tellement la parenthèse qui s'est effritée, c'est plutôt moi qui ai commencé à subir les choses. Parce que en fait, au début, la gynéco m'a mis sous Clomid, donc c'est un petit médicament qu'on prend et qui est censé déclencher les choses. Bref, faire que le processus s'accélère et permette une ovulation correcte. Donc ça, on l'a fait sur 3 cycles. Il y en a 2 sur lesquels ça n'a pas du tout marché. Donc mon corps n'avait aucune réponse aux médicaments. Et là, je voyais qu'elle commençait à être embêtée, qu'elle se disait merde, c'est des ovaires polykystiques, mais j'ai l'impression qu'ils me donnent du fil à retordre. La seule fois où ça a fonctionné, on a déclenché, on a eu une relation pile quand il fallait, et ça n'a rien donné. Et en fait, c'est quand on a commencé à passer aux piqûres. Donc c'est quand même un autre cap parce que tu te piques tous les soirs, qu'il faut que tu sois à la maison, faut que tu aies une hygiène de vie pas contraignante, c'est des piqûres, tu te fais une piqûre dans le bide tous les soirs, c'est un peu spécial. En plus moi du coup j'étais toute seule chez moi et puis tu calcules tout. Donc là, ça a commencé à être moins rigolo. Et puis, le fait que ça marche pas sur 4, 5 cycles, on commençait à se dire, et lui et moi, on va pas remettre ça. C'est une parenthèse. Ça peut pas durer 10 ans de notre vie. Et moi, en fait, chaque mois, j'avais peur qu'il me dise on arrête parce que j'ai rencontré quelqu'un, ce qui aurait été tout à fait légitime. Hein. Encore une fois, on n'avait pas d'attache, on n'avait pas de promesse. On s'était juste dit, on fait un CDD renouvelable en essai bébé, et puis quand y en a un ou l'autre hein, qui rencontre quelqu'un, on arrête. Donc moi, j'avais toujours cette peur au ventre qui me dise on arrête, et puis toujours ce truc qui grandissait en disant même avec les piqûres, ça marche pas quoi. Ça marche pas. Ça fait 9 mois que ça marche pas. Et le temps passe, et tu dis, lui, il va vouloir arrêter. Et puis, du coup, au bout d'un certain temps, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'on s'est dit, lui et moi, on arrête, quoi. Parce que moi, je voulais pas le forcer à continuer. Je sentais qu'il était hyper déçu, que ça marche pas. Et en même temps, notre parenthèse enchantée, quand tu fais l'amour juste pour avoir un bébé, c'est moins drôle quand même. Autant au début tu prends ça un peu à la légère en te disant on verra bien, autant à la fin quand tu te dis je mets tous mes œufs dans le même panier et si ça marche pas cette fois, on sait pas s'il y aura une prochaine fois, tu te mets vachement la pression et du coup c'est beaucoup moins agréable. Et puis je pense que moi je commençais à être hyper malheureuse quoi, et à être vraiment en mode je serai jamais maman, ça va pas marcher, ça y est, ça monte un peu, pardon.
Non, c'est normal.
Donc c'était moins enchanté et en fait la fin s'est faite d'un commun accord en se disant écoute, on a fait tout ce qu'il fallait, c'était très chouette vraiment, en gros merci beaucoup mais on va s'arrêter là et moi je vais continuer ma route avec ce projet à l'étranger et puis toi continue la tienne parce que t'es un mec génial et que tu vas sans doute rencontrer une nana extra et ce sera chouette quoi. Donc on a dû arrêter, je sais plus si c'était en février ou en mars, et donc moi j'ai commencé à faire mes recherches pour aller à l'étranger.
Alors par quoi tu commences?
Par des blogs. En fait j'ai commencé avant l'histoire avec ce géniteur potentiel à chercher des histoires comme la mienne, pas forcément de maman solo mais de PMA. En se disant mais qu'est-ce que c'est que les ovaires polykystiques, est-ce qu'on arrive à devenir maman malgré ça, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, à qui on en parle, combien de temps ça prend, etc. Et puis j'ai discuté avec plusieurs blogueuses qui avaient leur blog à elles et en fait je me suis dit moi j'adore écrire, je vais me lancer aussi parce que ça va être un peu mon défouloir. Et donc en fait mes recherches c'est pareil, elles ont commencé sur les blogs. Alors c'était surtout à l'époque ça fait 6 ans hein, mine de rien, donc c'était surtout des mamans solo mais en couple, des femmes en couple qui partaient en Espagne. Et puis il y avait un peu l'Italie, un peu l'Espagne, un peu la Belgique, un peu l'Angleterre. Et puis moi je me suis dit après tout j'ai qu'à en parler à ma gynéco, elle a l'air assez ouverte d'esprit, on avait déjà évoqué une fois la question, donc j'avais préparé un mail en fait que je voulais lui lire au rendez-vous qu'on avait pour lui dire bah voilà l'histoire avec avec le papa bio comme je l'appelais le géniteur elle est terminée mais maintenant je voudrais franchir le cap et aller à l'étranger. Et en fait quand on en a parlé elle m'a dit mais vous êtes bluffante quoi, j'avais pas du tout j'avais rien vu venir quoi, pour moi vous étiez en couple il n'y avait pas d'histoire de géniteur, il n'y avait pas d'histoire de potentiel étranger au bout de la route. Et elle me dit, en revanche, je vous suis, bien sûr. Bien sûr. Et celle-ci, c'était la gynéco que j'avais rencontrée quand même des années plus tôt et qui m'avait quand même détecté les ovaires polykystiques et qui me disait, si vous allez à l'étranger faire votre bébé toute seule, je suis là. C'était, je l'aurais pleuré dans les bras, quoi. Elle venait de m'enlever un poids, parce que c'était un frein quand même, hein, de partir à l'étranger sans gynéco en France, c'était quasiment impossible. Et elle m'a dit, par contre, réfléchissez, parce que je suis pas sûre que l'Espagne, ce soit la meilleure solution. Elle me dit d'abord, c'est cher. Ensuite, ils font un peu ça, pas à la va-vite, mais à tour de bras, et du coup, peut-être que le côté... familial que vous recherchez, le côté psy aussi dont vous allez avoir besoin, vous allez pas le trouver. Moi, j'avais vraiment besoin de parler à un psy pour être sûre que je prenais pas la mauvaise voie, que c'était pas un projet égoïste de se dire, bah voilà, je veux un bébé, alors je vais aller le faire toute seule. J'avais besoin qu'on me rassure, en fait. J'avais besoin qu'on me rassure sur mon projet, sur le temps qui passe, je sais pas, j'avais besoin d'être cocoonée, en fait, je crois, et j'avais pas envie qu'on me jette dans l'arène en Espagne en me disant je vais dans cette clinique parce que tout le monde y va, parce que les Françaises y vont et que ça marche bien et que tu fais juste un chèque de X euros et qu'on te fait ton bébé. Et puis en plus, pour des raisons quand même pratiques, j'habite à Paris. La Belgique, c'était quand même vachement plus simple. Donc en fait, mes recherches sont orientées vers la Belgique assez vite. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu puisque j'avais repéré deux cliniques en fait en Belgique, une à Liège et une à Bruxelles. Et à Liège en fait j'ai eu rendez-vous assez vite, j'ai vu une psy, une gynéco. Et en fait après le premier rendez-vous en gros elles m'ont dit mais vous êtes trop jeune, revenez plus tard quoi.
Ah oui.
Voilà. Alors, je me suis un peu effondrée quand même, parce que je me suis dit, mais en gros, je suis trop vieille en France pour trouver un mec et faire un bébé, mais je suis trop jeune à l'étranger pour être toute seule faire un bébé. Au secours, quoi, où est-ce qu'on s'en sort? Et en fait, j'ai eu la chance, toujours par les blogs, d'avoir une jeune femme qui m'a contactée, qui m'a dit, écoute, moi, j'ai le même parcours que toi, j'ai le même âge que toi, j'ai eu aussi rendez-vous avec la psy et la gynéco à Liège, qui m'a donné la même réponse, c'est-à-dire t'es trop jeune, va voir ailleurs et reviens plus tard. Et elle me dit je te conseille de prendre contact avec cette autre clinique, donc elle m'a donné le nom de la clinique à Libramont. Et elle me dit tu vas voir ça n'a rien à voir, c'est très familial, c'est une peu plus petite structure. Enfin moi j'ai adoré et au final je fais mon IAC là-bas.
Yes, c'est bon.
C'est ben justement c'est pour ça que je bug sur les mots. C'est
l'insémination
avec sperme de donneur. Voilà, c'est une IAD. En France, c'est IAC, c'est insémination avec sperme de conjoint, et IAD, c'est avec donneur. Donc elle m'a dit j'ai fait mon IAD là-bas. Voilà. Donc je me suis empressée évidemment de prendre rendez-vous à Libramont. Et alors là, le jour et la nuit, avec la vie des rendez-vous parisiens, c'est-à-dire qu'on t'accueille à l'heure, avec le sourire. J'ai vu une psy, mais extraordinaire, qui m'a dit, mais moi, j'ai rencontré plein de Françaises, plus ou moins âgées, des médecins, des magistrats, des gens qui viennent de toutes parts, des femmes en couple, mais aussi des femmes seules. Je comprends tout à fait, mais motivez-moi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Donc j'ai raconté ma vie, je me suis retenue de pleurer parce que je me suis dit ça se fait moyen de pleurer devant la gynéco et devant la psy quand on veut faire un bébé toute seule. Et donc voilà, j'ai raconté mon parcours et pareil au gynéco, le gynéco un peu plus perché, Bon, en gros, vous n'avez pas l'air de me poser plus de problèmes que ça, que j'ai des ovaires polykystiques. Oui, oui, on connaît. Voilà, pas de souci. Bon, très bien. Et en fait, la psy me donne de la lecture en partant. Elle me dit, voilà, je vais vous donner des articles sur la maternité sans père. Et je veux que vous m'écriviez ce que vous en pensez, ce que ça vous évoque. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que voilà. Et en fait, je les ai dévorés le lendemain et je lui ai écrit un mail de, je sais pas, 3 pages, je pense, où je lui disais ce que ça m'évoquait, ce que j'en retenais. Et en fait, en écrivant ce mail, je me suis dit, mais je pense qu'elle voulait me faire dire à moi que la réponse à ma question de savoir si j'étais prête, si je voulais, eh ben c'était oui en fait. Et j'étais rassurée, je me suis sentie, c'était un déclic, je me suis sentie prête. Voilà. Et donc elle m'a répondu, je crois que, enfin pour moi il y a aucun souci, vous avez maturé votre projet, vous êtes posé 6 milliards de questions, alors vous n'avez pas les réponses à tout, c'est sûr, mais vous vous posez les bonnes questions, vous avez la bonne réflexion, vous êtes prête. Donc pour moi c'est bon et du coup quand tu auras le comité parce que du coup ils se réunissent avec les médecins, les gynécos, les psys pour étudier tous les dossiers. Elle me dit en tout cas pour moi ce sera oui, la réponse sera oui.
Ouais. Alors comment tu te sens à ce moment-là?
Fébrile. Fébrile parce que tu te dis ça y est quoi, on va enfin franchir le cap et en même temps je me dis mais ça marchera toujours pas, peut-être. Parce que c'est pas parce que c'est à l'étranger. Alors, on franchissait un cap, parce qu'on était passé du médicament aux piqûres. Et là, je savais qu'on allait être en IAC, en IAD. Donc, ça allait encore aider le processus, puisqu'on injecte les spermatozoïdes dans le vagin. Donc, on peut pas faire, a priori, on peut pas faire mieux à part une FIV, quoi. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un bon point, quoi. On avance vraiment vers la concrétisation du projet. Et puis, là, le temps passe, c'est long, c'est très, très long. Parce que j'attendais la réponse de ce comité qui me dise enfin oui ou non. Et en fait, j'ai reçu un mail un soir à 20h30, je crois, du gynéco qui me disait vous aurez la réponse dans les jours à venir par courrier, mais sachez que la réponse est oui. Et alors là, c'était. C'est l'euphorie, quoi. Je me suis dit, putain, ça y est, j'arrive, je touche du bout des doigts le truc que j'attends depuis des mois, parce que je la fais courte, là, mais en gros, il y a eu quand même des rendez-vous en Belgique, il y a eu des déceptions, il y a eu des semaines, des mois d'attente, de coups de fil passés, et puis ma vie était entre parenthèses, quoi. Je m'étais dit, je vais pas rencontrer un mec maintenant, je me voyais plus sortir voir mes copines qui m'annonçaient des grossesses à tour de bras, j'avais trop mal à prendre le bébé d'une amie dans les bras, les collègues qui tombaient toutes enceintes les unes après les autres, enfin c'était un cauchemar pour moi, c'était super dur.
T'étais entourée, ta famille par exemple était...
Mes parents étaient dans la confidence, mais de façon très soft, c'est-à-dire que je leur avais dit « je vais faire un bébé toute seule, mais je vous en reparle plus tard, quoi, en gros ». Et mes amis, très peu. Parce que je pense que j'avais peur de leur jugement au départ, et que c'était mon projet à moi, en fait. Donc, assez peu, et puis... En fait, j'étais un peu poker face à cette époque-là, c'est-à-dire qu'au boulot, je souriais tout le temps, je bossais comme une folle, j'étais heureuse, quoi. J'étais la trentenaire qui vit sa vie, tout va bien, merci, au revoir. Et en fait, quand je rentrais chez moi, je pense que j'étais en dépression. Enfin, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que j'avais l'impression que je m'enterrais en fait et que je coupais ma vie sociale alors que je suis plutôt joyeuse, que j'adorais sortir, que voilà, aller au resto, voir des potes, au cinéma, c'était ça ma vie en fait, hein. Et là je me recroquevillais chez moi comme un petit animal qui se terre parce qu'il veut plus voir le bonheur des autres. C'est horrible, hein, de dire ça, hein. Parce que je pense que j'ai des amis qui ont très mal vécu leur annonce de grossesse parce que j'arrivais plus à être aussi enjouée et heureuse qu'avant. C'était trop dur. C'était trop dur parce que moi, je me disais, mais toi, ça se trouve, tu l'auras jamais, quoi. Tu auras jamais cette annonce-là et ça me bouffait l'existence. Donc j'essayais de donner le change, mais dès que je commençais à en parler, j'étais triste, donc j'en parlais le moins possible, donc du coup le moins possible de gens étaient au courant.
Donc t'as le oui du, t'as le go du gynéco.
J'ai le go, ouais, le go de Libramont, en fait, de la clinique à Libramont. Et puis là, on commence à parler de mots magiques où ils me disent, mais bon, bah alors du coup, il va falloir commander les paillettes. Et alors, donc c'est en fait les paillettes, c'est effectivement le donneur qui a des petits tubes, hein, qui les envoie à la clinique, et donc on les commande. Alors on sait pas d'où elles viennent, c'est totalement anonyme parce que j'avais fait le choix. J'ai oublié de le dire, mais c'est important. J'avais fait le choix déjà en amont de pas vouloir savoir qui était le géniteur. Je voulais pas choisir sur un catalogue. Je voulais pas faire comme mythique du papa, quoi. C'était pas mon idée. Et puis je me suis toujours dit, et encore aujourd'hui, que je voulais pas fermer ma vie et que peut-être que demain je rencontrerai quelqu'un et que maintenant on est trois et que ben j'aimerais bien qu'ils nous adoptent tous les trois, quoi, en gros. Et je voulais pas qu'il y ait l'ombre d'un géniteur au-dessus de nous, faire croire à mes enfants qu'ils connaîtraient ce monsieur dit à leur majorité, par exemple, et puis finalement que le mec est mort, qu'il s'en fout, que c'est un connard. Donc je m'étais dit déjà, je veux pas savoir qui c'est. Je veux pas.
Et est-ce qu'il y avait pas la possibilité justement que ton ami qui t'avait proposé de faire un enfant soit le donneur ?
Non. Alors pour moi, j'avais fait ce deuil là. Pour moi, c'était fini. La page était tournée. Et en fait, après réflexion, je me suis dit finalement, heureusement que ça a pas marché, parce que je me serais pas vue mentir à mes enfants. Enfin, à mon bébé, parce que je pensais pas en avoir deux à l'époque, mais à mon bébé en lui disant « je ne sais pas qui est ton père », alors que je savais très bien qui c'était. Et en fait, avec le don anonyme, du coup, je ne mens pas à mes enfants en leur disant « il y a un papa graine, je ne sais pas qui c'est, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est sacrément gentil, sacrément beau et sacrément intelligent vu le résultat qu'il y a aujourd'hui.
» Est-ce que tu as quand même défini des critères physiques ?
Non, aucun. Non, on m'a juste regardé moi, et puis on a fait avec ce que j'étais. Et en fait, a priori, encore, j'en ai pas de certitude, mais a priori de ce que j'ai cru comprendre et de ce qui se dit, les paillettes viennent du Danemark. J'ai deux petits garçons qui sont extrêmement blonds et qui me ressemblent. Paraît-il, moi je vois pas, mais il paraît. Donc je pense qu'on a fait effectivement mon physique à moi qui ressemblait le plus avec la définition de ce qu'il y avait en face et du géniteur qu'il y avait en face. Et je trouve que le résultat est sacrément bon. Donc je pense que le choix a été plutôt réussi. Voilà. Donc en fait, à ce moment-là, voilà, il faut commander les paillettes et puis après, il faut mettre en place le cycle. Parce qu'on en revient toujours quand même à cette histoire d'ovaire polykystique qui met le bazar dans tout ça et qu'il faut tout caler pour aller en Belgique, parce que la blague quand même, c'est qu'à la fin, il faut y aller, quoi. Et il faut caler tout ça sur un temps contraint. Il faut caler tout ça en faisant des échographies, en faisant des dosages hormonaux et en se disant, à la fin, il faut trouver le temps d'aller en Belgique pour une journée pour faire l'insémination.
C'était pas possible que tu le fasses en France avec ta gynéco.
Non. Par contre, ce qui a été possible, et heureusement pour moi, c'est que ma gynéco était toujours aussi investie et qu'elle, j'avais deux suivis gynéco. J'avais un suivi gynéco en Belgique puisque c'est eux qui donnaient le top et qui étaient aux manettes. Et ma gynéco en France, comme elle connaissait mon cas déjà depuis plusieurs années et qu'elle avait vu que c'était pas si simple que ça, finalement, elle donnait un petit coup de pouce quand elle pensait que la Belgique était pas tout à fait dans les clous. Voilà. Donc on a commencé. Alors une fois que les paillettes sont arrivées, elles sont arrivées le jour où je commençais mon premier cycle en fait. Et donc une fois encore, la Belgique m'a dit oui, on y va, on fonce sur ce premier cycle là. C'est parti, quoi. Ça c'était en décembre 2014. Et en fait le premier cycle, il y a rien qui marchait. C'était le bazar. En gros, les deux premiers cycles qu'on a fait, il y a rien qui marchait. Mon corps répondait pas. Ça allait pas. Donc on essayait de recoordonner avec la gynéco en France, de mettre un peu plus d'unité dans les piqûres, d'espacer les échographies. Mais il y a rien qui marchait. C'était encore plus le bazar que ce qu'il y avait avant, en fait. Il y avait soit trop de, d'ovaires. Et dans ces cas-là, on pouvait rien faire. Soit c'était des faux, et du coup, le taux de stradiol était complètement dans les choux, donc on pouvait arrêter. Et donc, on a arrêté à deux reprises en se disant, bah, ça marche pas, ça sert à rien de faire une insémination, là, ça prendra pas, il y a rien qui peut prendre, quoi.
Tu t'y rendais toute seule aussi en Belgique à chaque fois ?
Ah ben là, du coup, j'y allais pas. En fait, je faisais tout en France. Les piqûres, c'était en France, c'était tous les jours. Et la seule fois où je devais y aller, c'était pour faire l'insémination. Donc là, j'ai pas eu à la faire, j'ai pas eu à y aller, puisqu'il y en avait pas, en fait. Et par contre, le gynéco en France, en Belgique, et ma gynéco en France commençaient à s'inquiéter un peu. Autant te dire que moi, j'étais au 36e dessous, hein, parce que je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est encore pire que ce qu'il y avait il y a un an. On va jamais y arriver, quoi. Et en fait, le gynéco m'a appelé en me disant, écoutez, vu les réponses des deux produits qu'on a essayés, puisqu'on a essayé avec deux trucs différents, en se disant peut-être que finalement il y en a un qui va mieux marcher que l'autre. Vu les réponses, on va peut-être réfléchir à passer en FIV. Et alors là, c'est encore une fois, tu te dis, il y en a plein qui font des FIV, hein, évidemment, mais je me suis dit, c'est encore une marche de plus. Et puis une FIV à l'étranger, pour le coup, c'est vachement plus compliqué, quoi, parce que tu restes pas une journée. Là, il faut être là plus en avance, il faut faire la ponction. C'est quand même beaucoup plus lourd. Accessoirement, c'est quand même beaucoup plus cher aussi. Donc, c'était un peu la panique. Voilà. Et quand je suis revenue de Belgique, parce que là, pour le coup, ils voulaient me voir vraiment, je me suis dit, on va pas y arriver. On n'y arrivera pas, ça marchera jamais, quoi. Et en fait, on s'est mis d'accord avec les deux gynécos et moi-même. Et on s'est dit, allez, on tente un dernier tour pour faire une insémination. Et puis, si ça marche pas, je prendrai le temps de réfléchir pour passer en FIV après. Et là, donc, du coup, c'était en début d'année 2015. On a dû commencer en février. Et tout commençait mal. Il y a tout qui, tous les voyants étaient au rouge. Il y a rien qui marchait comme il faut. J'ai fait je ne sais plus combien de prises de sang, je ne sais plus combien de d'échographies. On voyait rien à l'échographie. Il y a rien qui grossissait comme il faut. Les taux étaient pourris. C'était une cata. C'était vraiment une cata. Et du coup, la Belgique me donnait des dosages à faire. Et puis la gynéco m'a dit, vous savez quoi, on va augmenter un peu quand même. Et donc, elle a voulu donner un petit coup de pouce. Et c'est ce que j'ai fait, parce que j'avais une confiance totale en elle. Et en fait, le cycle a duré 1000 ans. Moi, j'étais épuisée parce que du coup, tu te lèves tôt le matin pour aller faire les prises de sang à jeun avant d'aller au taf. Tu continues avec l'écho et j'ai dû en faire, je sais pas, 4-5 sur un seul cycle, quoi. Tous les 3 jours, j'étais rendue au labo. Tous les 3 jours, j'étais rendue au service de radiographie. Et tout ça avant 8h30 parce qu'il fallait aller bosser après, faire bonne figure. Et puis en plus, à Paris, il faut trouver des labos ouverts qui te prennent du jour au lendemain, des gens qui savent un peu lire l'écho sur des trucs comme ça. Enfin, bon, c'était compliqué. Et puis, presque au bout, ma gynéco m'a dit, bon, vous savez quoi, venez ce soir. Elle m'a donné rendez-vous à 21h, je crois. C'est moi qui vous fais l'écho cette fois. Et c'est moi qui regarde et on va voir. Parce que les taux commençaient à être un peu... Ce serait trop d'honneur, mais il commençait à être pas dégueu. Et elle me dit, j'ai envie de voir où on en est. J'ai envie de voir vraiment où on en est. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, donc venez. Donc, après le boulot, je suis allée dans son cabinet. J'ai attendu une demi-heure. J'entendais une femme en larmes dans son cabinet. Je me suis dit, putain, c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est cata pour moi aussi. Enfin, du coup, tu vois des signes partout, c'est horrible. Donc cette jeune femme est partie, je pense qu'elle avait fait soit qu'elle était pas enceinte, soit qu'elle faisait une fausse couche, enfin bon, bref, un peu l'horreur, quoi. Et moi je passe après et la gynéco super super contente de me voir en me disant, bon allez, on va pas faire durer le suspense trop longtemps, allez-y, installez-vous, on fait l'écho. Et là je la vois tout sourire, elle me dit, bah dis donc, ça aurait été un cycle bien long, mais je crois qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. Et je dis, allez-y, racontez-moi. Et en fait, elle m'explique qu'il y a deux ovules qui sont beaux, qu'il y en a deux autres derrière qu'il faudrait pas trop voir grossir, mais qu'en gros, on en a deux qui sont de la Rolls, quoi. Et elle me dit, pour moi, on fait l'insémination là, alors je sais plus si c'est 48 ou 72 heures, mais on y va, quoi. Du coup, j'envoie l'écho à la Belgique qui me donne le même verdict. Et alors là, j'étais en joie. Je me suis dit, putain, ça y est. Est-ce que c'est pas cette fois-là? Est-ce que j'en ai pas tellement chié pour que ce soit la bonne, quoi? Et donc, je pose mon jour de congé et je prends la direction de la Belgique sous un soleil radieux. Alors encore une fois, je voyais des signes partout. Je me disais, attends, il fait trop beau. On est en avril, c'est pas normal. Donc c'est un signe que tout va bien et tout.
Du coup, t'es partie toute seule?
Ouais, je suis partie toute seule. Je suis partie la veille de l'insémination parce que je voulais être le plus près possible pour le lendemain matin. Je me suis arrêtée en route, en fait, dans un hôtel. Bon, du coup, c'est un peu glauque, mais voilà, je savais que j'étais en chemin potentiellement vers un bébé. Et le 1er avril, je suis donc allée à la clinique. Et là, on te refait toute une batterie de tests pour savoir si t'as pas le HIV, si t'as pas un machin, voilà. Donc t'attends en disant merde, j'ai pas pu le choper. Attends. Et puis tu te fais des films. Enfin bon, bref, c'était mon cœur battait à 12 000 à l'heure. Et en fait, elle me met une blouse jaune en arrivant. Je me suis dit pareil, c'est la couleur du soleil. Je voyais des arcs-en-ciel partout, quoi, en mode bisounours toute la journée. Et en fait, là, elle me refait une écho. Et je me dis, j'espère que les deux petits qui sont censés rester petits, ils vont pas être trop gros et qu'ils me disent on arrête tout parce qu'il y en a quatre et qu'on veut pas des quadruplés, quoi. Et elle me fait l'écho et du coup je commençais à connaître un peu et je vois moi les deux beaux du bon côté, machin et tout. Et là elle me dit un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Elle me dit bon, on va faire l'insémination, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a il y en a deux, donc potentiellement il y a un risque de grossesse gémellaire. Et alors là je me marre. Mais vraiment, je me marre en lui disant, vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'essaie de faire un bébé, donc j'y crois pas trop. S'il y en a un qui prend, déjà, je pense que ce sera la fête, quoi.
Ouais.
Elle me fait l'insémination. Je rentre chez moi à Paris, toute guirette, en me disant, allez, plus que 14 jours à attendre et on fait le test. Et en fait, 14 jours, c'est hyper long, mais vraiment hyper long. Et au bout de 9 jours, en fait, j'ai rappelé ma gynéco en France en lui disant « Vous pensez pas que je peux faire un dosage maintenant pour vérifier, quoi ?» Elle me dit « Non, franchement, ce serait idiot, c'est trop tôt. Soit vous allez vous faire une frayeur, soit ne le faites pas. » Bon, ok. Donc j'ai attendu, sagement. Et j'ai fait un test acheté dans une grande surface, donc un test pipi, hein, chez moi le 14e jour. J'allais au boulot dans la foulée. Donc je fais le test pipi qui s'avère négatif. Donc je me dis, ben voilà, encore une fois, c'est mort, quoi. Avec deux beaux trucs, il n'y a rien qui marche, avec une insémination, ça ne fonctionne pas, ça ne marchera jamais, etc. Et comme la gynéco m'avait dit de faire le dosage et que de toute façon il me le fallait pour la Belgique pour clore le cycle, pour pouvoir en commencer un autre, ben je suis allée faire mon dosage, mais alors en me disant, c'est mort, le test est négatif, c'est mort. Donc, je fais le dosage. Et en fait, dans la matinée, j'avais vachement de mal, là, pour le coup, à donner le change au boulot, à faire comme si de rien n'était, quoi. Tu viens quand même de te prendre encore une claque dans la gueule, la 150e depuis plusieurs années. Bon. Et puis, en fait, je reçois le résultat du dosage par mail. Et là, je vois un truc à trois chiffres. Il est marqué 174. Et je me dis, mais attends... Ça peut pas être des résidus de l'ovitrel qui est le produit que tu injectes pour... c'est pas ça, c'est positif, en fait. Donc je rappelle ma gynéco, qui évidemment ne répond pas, hein, dans ces moments-là, c'est toujours comme ça. Et en fait, elle me rappelle un petit peu plus tard et elle me dit « Mais vous êtes enceinte ?» C'est positif, vous êtes enceinte. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai fait un test, il est négatif. Mais attendez, vous allez pas me contrarier à me dire que le dosage, c'est un test sanguin. Donc, si je vous dis que vous êtes enceinte, c'est que vous êtes enceinte. Allez refaire un test, mais achetez pas un test à 4 euros au supermarché, prenez-en un vrai à la pharmacie. Donc, le midi, je suis allée, alors là, enfin, j'y croyais pas. Je pense que j'étais plus moi-même. Donc je suis allée acheter un test que j'ai fait dans les toilettes du boulot et où se sont affichées deux belles lignes roses éclatantes. Donc j'ai rappelé la gynéco en disant mais ça marche en fait. Je suis enceinte. Et elle m'a dit bon, on s'excite pas trop, on refait de toute façon un dosage dans 48 heures parce qu'il faut que le taux grimpe et double de façon considérable pour être sûr que ça a pris. Et donc j'ai refait un dosage 48 heures après et le taux était passé à 452. Donc là, il y avait a priori peu de doutes pour que je sois pas enceinte, mais il fallait surveiller, etc. Et puis, j'ai quand même fait l'annonce à mes parents, évidemment. Et puis, j'attendais un peu de voir la suite, quoi. Et en fait, j'ai demandé assez vite à ma gynéco en France si on pouvait faire une écho, parce que j'étais flippée. Je me disais, est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que finalement ça s'éteint pas? Et puis alors dans ces cas-là, tu te dis, non, finalement j'ai plus mal au ventre, j'ai plus les seins qui sont comme ci comme ça. Ça y est, c'est fini. C'était un espoir, mais c'est terminé. Et donc en fait, j'ai pris rendez-vous avec elle et on est allé faire une écho. Et là, elle me dit, écoutez, tout est bien. Il y a un bel embryon. Elle me dit, je vous cache pas que vu les taux, j'avais peur que ce soit une grossesse gémellaire. Je me marre, évidemment. Et je dis, non, t'as pas l'air, non? Tout va bien, il n'y a qu'un bébé, etc. Donc, je me dis, oui, très bien. Et donc, ça, c'était à, 15 ou 16, enfin, c'était très, très, très tôt. C'était très tôt. Voilà. Quelques jours après, j'organise un petit apéro dînatoire chez moi, j'invite des amis et tout. Et puis, le matin, je vais faire des courses. Parce qu'il fallait ravitailler, etc. Et puis soudain dans le magasin, elle me dit, il fait vachement chaud quand même, je suis pas très bien là, j'ai très 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 chaud. Et j'arrive à la caisse, je me dis, allez, je paye, je sors, tout va bien, ça va aller quoi. Et en fait, pas du tout, je me suis écroulée à la caisse. Et en fait, toutes les caissières ont débarqué pour s'occuper de moi. Et j'ai eu le malheur ou le bonheur, j'en sais rien, de dire que j'étais enceinte. Et du coup, là, ils ont nuit deux, les pompiers étaient là 2 minutes après. Ils m'ont amenée à la riboisière. Ils m'ont étendu, ils m'ont dit maintenant vous bougez plus et vous attendez qu'on vienne faire une écho pour voir si le bébé va bien. Et là, j'étais en panique, je me suis dit ça y est, je l'ai perdu. J'ai fait n'importe quoi, pourquoi j'ai fait ces courses, pourquoi j'ai invité du monde, en mode culpabilité maximum. Et puis donc le médecin m'allonge sur le lit là, et puis elle allume son petit monito. Et elle me fait l'écho, et puis je regarde, du coup, comme j'étais un peu habituée. Et alors là, elle me regarde, elle me dit, je dis, mais il y en a deux. Elle me dit, mais vous le saviez? Je dis, mais non, pas du tout. Je dis, mais ça se voit, par contre. Elle me dit, oui, effectivement, on a deux belles poches avec deux petits embryons. Et alors, je vous rassure tout de suite, ils vont très bien, les deux cœurs battent, regardez, tout va bien. Voilà, merci, au revoir. Voilà, donc après un petit malaise, j'allais bien, les bébés allaient bien, et c'était plus le bébé, c'était les bébés. Voilà, donc je pense que j'ai pas réalisé tout de suite en fait. Je crois que en sortant de l'hôpital quand même, je me suis rappelé le truc que j'avais un peu en mantra depuis petite, c'est-à-dire maman, j'ai deux nouvelles à t'annoncer, la première c'est que je suis enceinte et la deuxième c'est qu'ils sont deux. Et là, je me suis dit, je vais avoir des jumeaux, quoi. Au secours, je vais avoir des jumeaux, c'est pas possible. Donc, j'appelle ma mère un peu en panique, mais pas tant que ça, finalement. Je me suis dit, j'en ai deux. Attends, ça fait 10 ans que je veux des bébés. Voilà, j'en ai deux. J'aurais pas à refaire tout ça, tout ce parcours. Ils sont deux. C'est un signe. Donc, j'appelle ma mère qui, alors elle, mode panique totale. Par contre, elle me dit, quoi, deux? Mais c'est pas possible, deux bébés toute seule. Mais t'es malade, c'est pas possible. Je dis, mais si, mais ça va aller, t'inquiète. Bon, le soir avec mes amis, super contente. Ouais, j'attends des jumeaux, super. Et alors le lendemain matin, douche froide. Non mais t'es une dingue quoi, tu vas pas avoir des jumeaux toute seule. T'habites en 19 mètres carrés, c'est juste pas possible. J'ai pas assez de bras, j'ai pas assez de tête, j'ai pas assez de fric, j'ai pas. Et alors là, évidemment, maman en mode panique, tu peux venir, s'il te plaît, c'est l'horreur, je peux pas avoir des jumeaux, etc. Et puis alors, ma mère, je sais pas, elle avait fait tout le chemin inverse, elle s'est dit, non, mais attends, t'inquiète pas, je suis là, des jumeaux, regarde, ton grand-père, il avait un frère jumeau, sa mère l'a éduqué toute seule, sa mère était là, on va gérer. Alors, on a quand même géré la journée en pleurs, hein, faut pas se mentir. Mais du coup, elle m'a tellement rassurée, elle m'a tellement rassurée de sa présence, en fait, et ce jour-là, et pour les jours d'après, que je me suis fait à l'idée que j'allais avoir des jumeaux, que après tout, ça fait trop longtemps que je les attends, que s'ils sont là tous les deux, c'est que voilà, c'était ma destinée, quoi.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse ?
Super bien. J'ai eu beaucoup de chance. Alors j'ai eu un suivi super déjà parce qu'à partir du moment où on apprend que c'est des jumeaux, je la voyais, j'avais une écho tous les mois avec une gynéco qui était extraordinaire. Le seul truc, c'est que j'ai pas beaucoup ralenti le rythme parce que j'allais bien en fait. J'ai été par contre super malade, donc j'ai perdu un peu de poids en début de grossesse, j'en ai pas beaucoup repris. Et le seul truc qui nous faisait un petit peu peur pendant la grossesse, c'est que les bébés étaient petits. Donc ils sont restés petits tout du long. En même temps, j'ai pas un gabarit qui permettait d'avoir des bébés de 4 kilos à la naissance. Mais voilà, c'était des petits bébés. Et un des deux était positionné assez bas, et donc on voulait pas qu'il précipite les choses et qu'il y ait une grossesse trop prématurée. Alors j'ai fait une menace d'accouchement prématuré à 28 semaines, donc j'ai été hospitalisée pendant 48 heures avec les corticoïdes pour ouvrir les poumons des bébés pour que s'ils arrivent en avance, ils puissent respirer tout seuls, etc. Et après, on m'a dit, en gros, de me calmer un peu, mais je suis allée jusqu'au bout de mon taf. J'ai pas pris de congé avant le congé mat normal. Et puis après, j'ai un peu calmé le jeu, mais vraiment, j'étais en forme. Le seul truc horrible, c'était que j'ai été vraiment malade du premier au quatrième mois et du cinquième au septième et demi où j'ai accouché, quoi.
Oui.
Donc c'était assez difficile parce que j'arrivais pas à manger correctement. Je mangeais des toutes petites portions puis je mangeais n'importe quoi. J'adore le chocolat, j'en ai pas mangé pendant 2 mois. Je mangeais des trucs à rien, des pâtes à rien, du blé à rien, des carottes râpées. J'en ai mangé 6 kilos, je pense. C'était le truc pas drôle, quoi. C'est que j'étais vraiment pas bien. Mais les bébés allaient bien, ils étaient parfaits, ils étaient en forme et ils sont nés à 7 mois et demi. En mode tout petit modèle, hein, puisque c'était un 690 et un 710, donc c'était vraiment des micro-bébés par voie basse normale. Et puis le premier, on a eu une petite inquiétude parce qu'il est né avec le cordon autour du cou, mais pas serré, donc on l'a juste coupé et ça allait. Et le deuxième, on allait le chercher par le bras et en mode tranquillou bilou, j'arrive et tout va bien, quoi. Donc un accouchement merveilleux, vraiment idéal.
Est-ce que quelqu'un t'a accompagné pour l'accouchement ?
Ma mère. Ma mère m'a accompagnée pour l'accouchement. Oui.
Ouais.
C'était fort. C'était magique. C'était magique parce que elle m'avait suivie pendant toute la grossesse, que ma mère, elle est juste exceptionnelle, qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, que puis 2 bébés, quoi. Il y avait tout un staff parce que du coup, quand t'accouches de jumeaux, bah du coup, il y a tout un monde dingue dans la salle. Et moi, j'avais ma maman qui était à mon épaule, qui me tenait la main, qui pleurait, et puis qui voyait que ça se passait bien, qui a vu les bébés presque avant moi, en fait. Et quand je vois la relation qu'ils ont aujourd'hui, je me dis que c'était tellement fort qu'elle soit là, que c'était magique. Franchement, c'était magique. C'était le début de cette grossesse et cet accouchement, c'était. Je referais la même chose, peut-être sans les vomissements et sans les nausées tout du long, mais sinon c'était parfait. C'était vraiment parfait. Et puis l'équipe soignante était super. En plus, moi j'avais très très peur de devoir perdre les os et de devoir commencer le travail chez moi et d'être toute seule. Et en fait, il s'est avéré que j'avais un rendez-vous le vendredi matin. Et qu'en fait, ils m'ont gardé toute la journée parce qu'ils trouvaient que ça commençait à s'accélérer un peu, que le col était un peu trop ouvert, etc. Donc finalement, j'ai pas quitté l'hôpital. C'est ma mère qui nous a rejoints. Et du coup, la peur d'accoucher toute seule, elle a disparu parce que j'étais déjà dans la place, quoi. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour avoir l'accouchement parfait. Donc c'était magique. Franchement, pas de douleur. Enfin, des douleurs, si, d'accouchement, mais j'ai eu une péridurale. Un peu tard, mais je l'ai eu quand même. Et puis de savoir les bébés en bonne santé, ils sont nés tout petits, mais ils étaient, c'était des poupons parfaits. Vraiment, c'était magique.
Et alors, de retour à la maison avec tes deux bébés, tes deux garçons.
Le retour à la maison, ça n'a pas été si rapide que ça, parce qu'ils ont été en réa pour 3 jours, parce qu'ils étaient tout petits quand même, qu'ils n'arrivaient pas du tout à s'alimenter tout seuls, parce qu'ils étaient trop faibles. Et qu'après, on a été transférés dans un autre hôpital en néonat. Donc en réa, moi, j'étais toujours à l'hôpital, et par contre, en néonat, j'étais chez moi. Donc mes bébés sont restés en néonat 3 semaines, et moi, je rentrais tous les soirs. Et c'était super dur. Super, super dur. Ils sont nés fin novembre et on est parti quelques jours avant Noël. Donc tous les jours, je traversais Paris pour aller les retrouver en néonat. Donc j'arrivais tôt le matin, je repartais tard le soir. Ils étaient dans des couveuses, mais c'était hyper dur. Alors j'ai fait des belles rencontres pendant cette période-là, parce que du coup, on est plusieurs mamans et... Mais c'était très dur. C'était très dur de les quitter le soir. C'est, quand j'ai appelé la nuit, que j'entendais mon bébé pleurer, c'était horrible. Tu te dis, mais je suis pas là pour lui, quoi. J'ai fait tout ça pour pas être là pour lui. Enfin, pour eux. En l'occurrence, il y en avait qu'un qui pleurait. C'est pour ça que je dis pour lui, mais je suis pas là pour eux. Et puis, en plus, j'en avais un des deux qui faisait des apnées. Donc, j'entendais la saturation chuter avec les infirmières qui paniquaient en me disant, on vous rappelle, vous rappelez plus tard. En gros, je vais m'occuper de votre bébé qui va pas bien, quoi. Donc, c'était très dur. Cette période-là a été hyper, hyper dure. C'est des souvenirs qui sont très douloureux et pourtant qui étaient, c'était douillet parce que on était, il y avait que des infirmières, des aides-soignantes à côté. Je savais qu'il pouvait rien leur arriver. Mais moi, j'ai eu peur qu'ils meurent pendant cette période-là. Parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils mangeaient pas tout seuls, parce qu'ils s'arrêtaient de respirer en même temps qu'ils mangeaient. C'était vraiment cauchemardesque. Et en plus, on nous avait dit, peut-être qu'on en fera sortir un et pas l'autre. Je me voyais pas rentrer avec un seul de mes bébés et pas le deuxième. Et en fait, ils se sont tenus la main, en quelque sorte, et ils sont sortis tous les deux, donc à quelques jours de Noël. Ils pesaient moins de 3 kilos. Et là, on n'est pas rentré chez moi, mais on est rentré chez ma mère, comme on avait prévu depuis le début. Ils avaient leur chambre. Et là, je sais pas, ça s'est fait tout seul, quoi. On était bien rodés. Ils dormaient mieux que maintenant. C'est dire, ils avaient leur biberon toutes les 4 heures. Ma mère, elle allait les promener l'après-midi pendant que moi je dormais pour essayer de récupérer des nuits. Et c'était chouette, c'était super. On était un petit duo parfait pour s'occuper de ce duo de bébés. Ils grandissaient bien. On avait une sage-femme qui venait à la maison pour les peser, pour vérifier qu'ils mangeaient bien. Et c'était parfait. Franchement, c'était parfait. Ça a duré jusqu'au mois d'avril. Donc de décembre 2015 à avril 2016, on est resté comme ça, notre petite bulle tous les quatre, et c'était génial.
Et alors après, la vie de maman solo avec des jumeaux, comment ça se passe?
Et ben après, alors moi j'ai eu un appartement entre-temps à Paris, donc on s'est installé, donc déménagement avec des jumeaux, etc. Et puis après, ce que j'ai trouvé dur. Mais ce que je trouve encore dur aujourd'hui, c'était pas tellement qu'ils soient deux, parce qu'en fait ça tu gères. Enfin, je vais pas dire que c'est easy d'avoir des jumeaux, hein, mais je trouve que c'est pas tant le fait de faire tout par deux qui est difficile, c'est d'avoir autant d'attention, d'amour et de présence pour les deux en même temps. Parce que les biberons, tu les mets chacun dans un transat, tu leur donnes leur biberon, ça marche. Le bain, tu les fais l'un après l'autre, t'en mets un derrière, ça marche. Mais avoir l'attention, la présence, les câlins, pour les deux autant, ça marche pas. Et ça, c'est dur de pas culpabiliser. Et le problème principal que j'avais avec mes bébés, qui avaient du coup 6 mois et puis 9 mois, ça, c'est qu'ils dormaient pas. Et qu'ils se réveillaient des milliards de fois par nuit. Et que je reprenais le boulot en juin et que je commençais à sérieusement, sérieusement fatiguer. Donc c'était ça qui était dur. Sinon, la gestion du quotidien, elle s'est faite, voilà, comme tous les autres parents. J'ai trouvé une nounou à domicile. Alors ça, c'était le grand luxe quand même, parce que jusqu'à septembre, où il y avait une place en crèche, elle venait tous les jours à la maison et moi, je partais en laissant mes bébés en pige. Je m'occupais pas du reste. Donc ça, c'était plutôt facile. Mais par contre, voilà, c'était les nuits, quoi, qui me pourrissaient, quoi, qui étaient super dur à vivre, super dur à vivre. Mais sinon, non, le reste, j'ai te dire que je trouvais, peut-être qu'en fait c'est parce que j'oublie, hein. Je crois qu'on oublie le plus difficile, mais je pense que j'étais sur un petit nuage, j'avais mes bébés, j'avais attendu ça tellement longtemps, ils étaient tellement parfaits, c'est juste que ces nuits c'était horrible, parce que je traînais la patte au boulot, que je suis revenue dans des conditions professionnelles hyper difficiles et que du coup, voilà, gérer les deux, c'était un peu folklore. Mais la gémellité, je commençais à découvrir que c'était, je vais encore dire magique, ça va être le mot du podcast, mais je trouvais ils avaient une relation tellement et encore aujourd'hui, quand je les vois tous les deux, je me dis mais heureusement qu'ils sont deux, ils vont pas l'un sans l'autre en fait. Et puis nous trois, on va pas l'un sans l'autre, on est tous les trois, on est notre petite équipe, c'est notre famille, c'est nous, c'est notre trio à nous, c'est notre vie. Elle est comme ça et elle est dure parfois parce qu'ils sont pas faciles, hein. C'est deux petits mecs que ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, que ben voilà, entre les biberons qu'on prépare toutes les 4 heures, l'alimentation, les bains, le quotidien, l'école, la crèche, enfin voilà, le quotidien de tous les parents, c'est ardos. Mais alors pour rien au monde, je regrette une seule seconde. Mais si c'était à refaire, je ferais pareil.
Est-ce que tu as des peurs par rapport au regard de la société, vu que c'est pas encore très open en France?
De moins en moins. Par rapport aux gens qui m'entourent, aucune. Parce que j'assume. Parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont petits encore, hein, ils ont 5 ans, mais qui sont heureux, mais vraiment heureux. Que je me dis qu'on est une famille, il y a peu. Pas comme les autres, mais on est aussi extraordinaire que les autres. Voilà, que j'ai des enfants qui sont heureux, ils sont épanouis. Je leur ai expliqué leur histoire, ils savent d'où ils viennent. Je leur ai fait un petit livre pour tout leur dire. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est par rapport au monde professionnel. Parce que je trouve que c'est plus compliqué que des amis, que le regard est sans doute moins bienveillant et que du coup, j'en parle pas. Voilà, donc je dis que je suis maman solo. Et c'est tout. Et quand on me pose des questions, je dis que ça me regarde. Et que voilà, il n'y a pas de raison qu'on... Après, quand je suis en confiance et que je sais à qui je m'adresse et que je sais que ça ne posera pas de problème, j'en parle. Mais ce n'est pas moi qui vais faire le premier pas pour me raconter. D'abord parce que ce n'est pas mon genre, je suis plutôt discrète. Et en plus, très honnêtement, pour moi maintenant, c'est même plus un sujet en fait. Ils sont là, c'est mes enfants, je suis maman solo, peu importe comment ils ont été fabriqués... Peu importe que c'est été légal ou pas, je suis pas porteuse d'un message ni rien. Pour moi, voilà, je suis une maman comme les autres en fait.
Par rapport à eux, leurs camarades, etc.
Et ben eux, ils l'expliquent beaucoup mieux que les adultes en fait. Ils disent non, moi j'ai pas de papa, c'est un papa graine. Mais j'ai papy, j'ai Mina. En fait, leur famille, c'est les autres quoi. On a des copains, on est entouré. Le fait qu'il n'y ait pas de papa, ben pour l'instant, ça pose pas de problème. Encore une fois, ils sont petits. Hein. Je sais que la question reviendra et c'est ce que m'avait dit la psy d'ailleurs. Hein. Qu'il faut adapter le discours à leur âge, à leurs questions. Moi, j'ai toujours décidé de leur dire la vérité. Je leur raconterai à chaque fois, autant de fois qu'il le faut, ce qu'ils ont à savoir. Et je sais que ça posera peut-être problème hein, quand ils seront plus grands, mais je vois pas pourquoi ça poserait plus problème que des couples séparés, que des papas qui disparaissent, que des parents qui sont durs avec leurs enfants ou pas présents. Ou... Voilà, c'est notre histoire, elle est différente. Et ben elle est comme ça. Et je suis certaine qu'ils sauront faire avec. En tout cas, j'essaye de leur donner les bagages pour.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ma vie. Je sais pas ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas été maman. À l'époque, honnêtement, je ne me voyais pas sans enfant. Aujourd'hui, je savoure quand ils sont pas là parce que c'est calme et que je peux regarder une série sans être interrompue toutes les 2 minutes. Mais tu vois, là, je vais les retrouver demain et j'ai hâte. Ils sont ma vie, en fait.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Courir, prendre le métro et puis squatter les parcs.
Justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré avec tes jumeaux ?
On a un parc qu'on aime bien à côté de chez nous, mais parce que c'est pas kids friendly, enfin pas particulièrement, c'est pas un resto ou quoi, mais c'est un parc en général où eux retrouvent leurs copains et moi je retrouve mes copines.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Mes projets à moi, mais qui les impliquent eux, c'est un déménagement. J'espère qu'on va quitter Paris dans les mois à venir. Et moi toute seule, rencontrer quelqu'un. Mais pareil, ça les impliquera eux aussi. J'espère qu'on sera une famille élargie et qu'il y aura un homme dans notre vie dans les mois ou dans les années à venir.
Merci beaucoup, Nathalie.
Avec plaisir. Avec grand plaisir.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Nathalie, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 79 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.